Que c'est bon de prendre du temps pour louer le Seigneur ensemble, nous mettre à son écoute, avoir une rencontre ressourçante avec lui. J'espère en tout cas que nous pouvons boire à ce fleuve d'eau vive, que chacun peut goûter, être régénéré. Ézéchiel a cette vision qu'il coule de l'eau des fondations du temple. Et un ange lui dit, marche, il en a jusqu'aux chevilles. Mais va plus loin Ézéchiel, il en a jusqu'aux genoux. Va plus loin, jusqu'à la taille, jusqu'au moment où, va plus loin. Et il est submergé, il ne peut pas traverser. Voilà l'eau, la vie que Dieu veut donner à chacun d'entre nous. Alors, période de fête, on va aller un peu moins vite. Je vais reprendre encore quelques éléments sur notre deuxième dimension du Cap 25. Mais avant ça, je voudrais qu'on lise un texte. Dans le livre des Psaumes, celui qui est un peu le texte indicatif pour ce deuxième potentiel. Le psaume 90. Le seul psaume écrit par Moïse. Les traducteurs lui ont donné un titre. Ça va ? La brièveté de la vie de l'homme. La brièveté de la vie de l'homme, mais l'éternité de la vie de Dieu. Seigneur, et Moïse écrit ça à la fin de sa vie. Moïse, à travers tous les chemins par lesquels il est passé, peut dire, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière. Normalement, ça ne devait pas être ainsi. On devait vivre l'éternité sur terre avec lui. Mais le péché a tout gâché. Et tu dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes semblables à un rêve qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car le temps passe vite, et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous au temps de jours que tu nous as humiliés, au temps d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Bien, je voudrais nous permettre d'être dans le même train, ensemble. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire fictive à Pérideïsa. Il n'y a pas que les francophones qui vont là à Pérideïsa. Un couple de néerlandophones osaient passer la ligne fatidique. Il s'appelle Bart. Non. Et ils viennent visiter Pérideïsa avec leur petit caniche. Hein, les Flamands sortent avec leurs animaux domestiques. Le problème, c'est que cette période de vacances, Pérideïsa, et donc le personnel n'est pas toujours en pleine forme, il n'est pas toujours vigilant, et il semblait que la cage des lions était entrouverte. Et c'était pas le lion des Flandres, hein, c'était un autre lion qui est sorti, et qui était face à face à ce couple, avec ce couple flamand, et leur caniche. Et Bart a dit à son caniche, je vous traduis hein, comme ça, je sais que vous connaissez pas le néerlandais. Mijn hond, hein, mon chien, opstaan, debout, réveille le lion qui est en toi. Et le lion a mangé le caniche. Et pourtant, il était convaincu que c'était possible que ce caniche réveille une force terrible. Mais ça n'a pas marché. Si vous comparez un peu toutes les religions, je crois que toutes ont le même langage que Barthes. Réveille le lion qui est en toi. Réveille l'étincelle divine qui est en toi. Fais quelque chose pour te sauver. Fais quelque chose pour te sortir de là. Toutes les religions nous proposent de faire quelque chose pour que ça marche, pour convaincre Dieu. Seul l'évangile, et tu as parlé de la croix, seule l'œuvre du Christ dit, écoute, on va laisser le caniche là où il est. Tu es beaucoup trop faible, tu ne peux pas accéder à ce Dieu, le grand je suis. Impossible, puisqu'on a dit non à Dieu, et Dieu est amour, un amour incroyable, mais Dieu est parfaitement juste. Comment vous voudriez-vous que des êtres souillés, Esaïe dit que toute notre justice, elle est comme un linge gris, un linge souillé. Comment voulez-vous vivre l'éternité qu'un Dieu comme cela? Impossible. Le caniche ne peut pas réveiller la force du lion qui est en lui. Il faut que Dieu vienne et mette, nous réconcilie. Et vous savez ce que fait la vie chrétienne? Fait le Christ en nous. Il vient mettre cette force du lion en nous. Le Christ vit en nous. Et c'était bien qu'on terminait le moment de chant avec ce chant, cette parole incroyable que Paul déclare, qui est l'indicatif de la vie chrétienne. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Alors certainement, il y a un chemin, il y a une progression, mais c'est la grande vérité de la vie chrétienne. Le Christ vient vivre en nous. Paul a cette assurance, où qu'il soit, même en prison, il peut écrire, Christ en nous, c'est l'assurance, c'est l'espérance de la gloire. Vous savez, le Christ, il est là en nous par son esprit. C'est pourquoi, même si nous sommes des petits caniches, le Christ en nous peut vaincre un lion, 10 lions. Le Christ en nous, c'est ça qu'il a dit dans Marc 16. Vous irez et votre parole de petit chien sera portée par le lion de Juda, l'image de Jésus, qui sera derrière vous, qui sera en vous et qui va porter et qui va sauver. Et Pierre a eu de la peine à croire ça. Il a dit, bon, je vais essayer. Il y a un petit auditoire, 3000 personnes, je vais toujours tenter le coup. Et il a aboyé comme un petit caniche. Ce qu'il ne savait pas, ou il commençait tout doucement à appréhender ce mystère, c'est que le grand lion était là, qui a convaincu 3000 personnes. 3000 personnes qui ont plié le genou, qui ont demandé, le texte dit, leur cœur a été transpercé. Le mot grec est plus fort que dans Jean 19, il est dit que le soldat a transpercé le côté de Jésus. Et le terme grec dans Acte 2 est plus fort. Leur cœur a été transpercé par une voix de caniche qui faisait aller sa petite queue comme ça. Mais il a osé dire que toute la maison d'Israël sache que ce Jésus est Seigneur et que le salut vient par lui. Et les cœurs ont été transpercés. Ça, c'est notre potentiel. C'est notre potentiel. C'est votre potentiel. C'est notre responsabilité. Alors, bien sûr, il y a une participation. Paul a dû décider, je ne veux plus que ce soit moi, je veux que ce soit le Christ. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi, je la vis dans l'intimité avec le Christ. Il y avait un choix de vie, ça impactait son existence, ça doit impacter. Et on est là pour continuer à impacter nos vies. On voit son grand souci des disciples qu'il avait amenés au Seigneur. Viens Barnabas, viens Silas, repassons dans toutes ces églises pour voir comment va leur foi. Est-ce qu'ils grandissent? Est-ce qu'ils se fortifient? On ne peut pas rester les mêmes. On ne peut pas rester les mêmes. Il y a tout un chemin. Le Christ est en nous, il est en train de se former. Même Jésus a grandi. Ce thème est tellement abordé dans les évangiles. Jésus croissait. Tu t'imagines pas que juste avec la carte de baptême, c'est suffisant, il y a place pour une croissance. Même nos cheveux blancs doivent dire, oh, il y a encore tellement de terrain à conquérir. Le Christ doit tellement régner en moi. Et on est en train de nous aider, de nous équiper à devenir tellement mature, tellement comme le Christ. Le potentiel est là. Le Christ est en nous. On peut donc attendre toute l'Église. On peut tout attendre. Et même si l'Église a pu être décevante, si nous avons pu être décevants, si on a mis du temps pour passer d'un palier à un autre, on peut malgré tout tout attendre. Quel que soit le nombre, quand le Christ agit et quand des hommes et des femmes disent « Oui Seigneur, je te donne mon existence ». Je vais garder mon travail, mais je vais tout vivre avec toi et pour toi. On peut tout attendre. On peut tout attendre. Une poignée d'hommes et de femmes pouvaient bouleverser une ville comme Éphèse. Un haut lieu d'Asie mineure. Charleroi, c'est de la gnognotte par rapport, mes amis, à des villes comme Antioche, Éphèse, Jérusalem. Quelques chrétiens qui se donnent et tout peut être transformé. Potentiel. On a vu premièrement que nous avons reçu un potentiel relationnel. Et je veux le rappeler parce que c'est tellement important. Un nouveau potentiel de relation avec Dieu. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Il nous entend, il cherche notre cœur. Parfois il te réveille pendant la nuit. Comment tu vas? Ça va, t'as assez dormi. Viens un peu près de moi. Viens un peu près de moi. Parle-moi. J'ai des choses à te dire. Relation avec soi-même, nous voir comme Dieu nous voit, et relation juste avec les autres, un ministère de compassion, de service et de pardon. Deuxième grand potentiel, et peut-être, puisque le Seigneur nous a demandé vraiment de préparer le quart du siècle, hein, 25, donc des sujets sur lesquels je veux revenir en cycle tous les deux ans, même si je dis pas tout ce qu'on pourrait dire sur ce potentiel, au niveau du changement, c'est pas grave, mais je veux déposer des choses dans votre cœur. Quand le Christ vient en nous, il vient amener les valeurs du ciel. C'est pourquoi changement ciel, c'est une nouvelle écriture. Mais oui, vous connaissez le début de l'écriture, on est sorti de la présence de Dieu. Et on a construit nos vies, nos villes, nos cultures, nos réflexes, nos mentalités, en dehors des valeurs de Dieu. Et Pierre dit que il nous faut nous débarrasser de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Il s'est installé en nous des valeurs, des coutumes, des idées, des goûts, des appétits, vraiment des valeurs qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Sans qu'on le sache, le train est dans ce sens-là, on est né dans le train et on continue. Mais parce que le Christ vient en nous, le résumé de sa prédication dans les évangiles, c'est quoi? Le royaume de Dieu s'est approché, changé. Waouh! Changé. Est-ce que déjà accepter ça, je crois que ce serait déjà une grande victoire. Nous qui, il y a une partie en nous qui n'aime pas du tout le changement. Notre chair, notre nature humaine, nous qui étions dans ce train, et on aimait bien, et on voyait des clochers, on voyait plein de choses, et on s'amuse bien, il y a de l'ambiance dans le train, parfois c'est la cacophonie, mais ok, mais on est rassuré, on contrôle la situation, on n'aime pas changer. Mais la vie du Christ en nous fait que l'Esprit nous fait aspirer aux valeurs d'en haut. Paul dit même, vous ne faites plus ce que vous voulez parce qu'il y a quelqu'un en vous qui vous fait aspirer. Avant, tu étais peut-être à l'aise en volant. Pas de souci, de toute façon, l'État me vole. Mon patron me vole. Mes voisins, s'ils ne l'ont pas encore fait, ben moi je le fais avant eux. Là, tu te sens tel. Mais aujourd'hui, tu prends un crayon. Wow, wow. Quelqu'un en toi qui dit non. Les valeurs du ciel. Les valeurs du ciel. Acceptons que dans nos gènes, maintenant, il est inscrit place au changement. Et je crois que ce qui peut mettre à mal une église et nos vies chrétiennes, c'est le statu quo. Cette volonté de ne plus changer. De ne pas vouloir aller plus loin. De ne pas laisser installer le royaume encore un petit peu plus. Et parfois on garde des choses en main qui ne sont pas forcément mauvaises. Mais Jésus dit, écoute, si tu veux venir avec moi plus loin, tu veux expérimenter des choses plus grandes avec moi, ok, alors change. On voit partout cela dans l'Écriture. Le jeune homme riche, pas simplement à cause de son compte en banque, mais au niveau de son éthique, on aimerait des églises peuplées d'hommes comme cela. Mais j'ai suivi ça scrupuleusement. Mais il te manque quelque chose. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Je dois faire attention de garder cette fraîcheur, de lire la Bible, d'entendre des messages. Même si peut-être tout n'est pas exact, si tu n'aimes pas le prédicateur, t'aimes pas, peu importe. Seigneur, est-ce que toi tu vas me dire quelque chose? Est-ce que toi, Jésus? On voit Paul contester. Oh, quel mauvais prédicateur. Ses lettres, elles sont top, mais lui, qu'il est pénible. Mais il avait des choses à dire. Il pouvait passer des nuits entières à prendre soin de l'Église, à enseigner pour amener le royaume de Dieu. Amener le royaume de Dieu. Et il envoyait ses collaborateurs. Va voir si ça bouge, s'il change. Et on a besoin d'aller plus loin. Plus loin dans notre relation avec lui, plus loin dans notre qualité de vie avec lui, dans notre service, dans notre amour. Jésus a terminé sa vie en disant, tout est accompli. Tout est accompli. On n'a pas envie de mourir en disant, oh mince, j'ai fait la moitié. Peut-être on ne pourra pas dire tout est accompli, ok. Mais ça serait terrible quand même de mourir en disant, chérie, je te demande pardon parce que mon caractère de cochon, il est vraiment resté cochon. Ce serait quand même terrible, quoi. On a besoin de grandir. C'est une des clés dans le royaume de Dieu, la place au changement. Changement ciel. Et c'est bon, mes amis. C'était bon ce que Jésus disait au jeune homme riche. Quoi qu'il en pense, même s'il part tout triste, ça, c'était une mauvaise tristesse. On n'entend plus parler de lui après. Il est resté avec son argent. Triste. Peut-être le Seigneur va ôter quelques petits jouets de nos mains. Ok. Mais il va venir engouffrer sa joie en nous. Est-ce que nous sommes prêts, en cette fin d'année, de dire au Seigneur, écoute, Adriano, demande-moi ce que tu veux, Seigneur. Demande-moi les changements que tu veux. Je vais le faire. Aide-moi. Aide-moi. Pas les changements qu'un tel me propose, mais ce que toi tu me dis. Ce que toi tu me dis. Je veux vraiment le faire. On a vu que les plus gros changements auxquels nous sommes confrontés, c'est d'abord une vision de notre passage sur terre. Et je présentais de manière très clivante pour qu'on comprenne bien. Dans notre monde sans Dieu, l'accent est mis sur le temporel, sur l'ici-bas, sur le maintenant. Comme il n'y a pas d'autre issue, c'est ici et maintenant, tout de suite, le plaisir. Là, maintenant, les choses temporelles vivent pour l'ici-bas, pour le matériel. Or, l'Écriture nous appelle à avoir une vision éternelle. Et ce changement-là, il est pas évident à installer en nous. Et je voudrais dire encore quelques mots sur cela aujourd'hui pour nous y aider. Peut-être la semaine prochaine, on prendra du temps sur ce psaume 90. on est vraiment dans une arène temporelle où la pression de l'ici-bas, du maintenant, du matériel, de tout pour maintenant, pour toi, pour les tiens, juste pour ton petit horizon, ça c'est très très fort, cette pression-là dans notre société, en dehors du jardin d'Éden. Or l'Écriture nous dit que parce que le Christ vient en nous, tous les hommes sont immortels, vont vivre toujours, toujours. Et toujours, c'est long. Hein. Et l'Écriture est claire. J'aimerais tellement qu'il en soit autrement. L'Écriture dit que on vivra avec Dieu. Jésus dit, si tu crois, tu auras la vie éternelle. Si tu ne crois pas, la condamnation, la colère de Dieu demeure sur toi. Tu vivras toujours, toujours, dans une tristesse qu'on ne peut pas mesurer. On a donc besoin de comprendre que notre vie, elle ne se vit pas simplement en fonction de la case suivante, hein, dans le jeu de loi. Juste la case suivante. Mais en fonction de la fin, de l'éternité. Et l'Écriture ne cesse, quand tu fais attention à cela, de mettre l'accent sur la brièveté de notre passage sur terre, mais de l'éternité que nous allons vivre avec Dieu. Et c'est difficile pour nous d'installer cette vision-là en nous. Parce qu'on était comme programmés à vivre juste pour ici, maintenant, juste aller ma pension. Et après, waouh! Il dit non. La vie passe très vite, très très vite. La vie passe vite. Intérieurement, j'ai pas l'impression d'être déjà grand-père. C'est pas que je veux pas jouer aux petits jeunes. On a l'âge qu'on a. Ok, pas de souci. Mais je dis, déjà. Je m'attendais à ce qu'ils partent tous, qu'il y ait une mi-temps, hein. On ferme la porte à clé. Un bon bout de temps. Mais non. Ça passe vite. Et des personnes qu'on pensait indéboulonnables, qui allaient vivre tout le temps. Ils partent. Ils partent. Laurence disait sur le pêle-mêle, on monte des étages. On va bientôt être au-dessus. Et puis, retirons nos photos. Wow, ça passe vite. On a besoin donc de faire attention à cette pression, temporelle ou éternelle. Et c'est... Ça prend du temps à installer cela en nous, cette vision de l'éternité. Mais ça doit impacter nos... ça doit impacter nos vies et nos choix. Et je voudrais juste peut-être, pour terminer, Loïc, je vais m'arrêter au point 7. Par rapport à ce que le Christ est venu vivre en nous, au monde dans lequel nous sommes entrés, parfois les chrétiens oublient qu'il y a des vérités non négociables qui déterminent notre vie, la qualité de notre vie. Je veux dire, je crois que le postulat, l'hypothèse de base, l'axiome, la vérité centrale qui marque notre vie et qui doit impacter notre quotidien, c'est ceci. Et je prends cette citation de Schaeffer. Ce postulat qui doit marquer nos vies, c'est que Dieu est là et Dieu n'est pas silencieux. Ça, il faut que je change ma mentalité de croire que je suis tout seul, perdu dans les galaxies. Dieu est vraiment là et Dieu n'est pas silencieux. L'auteur de toute la création, c'est une personne qui s'est révélée à l'humanité de plusieurs manières, de différentes manières. Par la conscience, par la nature, par des rêves, par des prophètes. Et l'Écriture nous dit que la révélation la plus claire qu'il a donnée de lui, c'est Jésus. Il est venu dans la personne de Jésus. Et nous a réconciliés avec lui. Nous considérons que la Bible, c'est la révélation que Dieu nous donne de lui, de ses promesses, de ses attentes, une lettre d'amour à ceux qu'il a sauvés par Jésus-Christ, un plan qui m'indique comment mener une vie sage, qui a du sens, une vie d'amour et d'espérance. Tout découle de cela dans notre existence. Tout découle de la présence de Dieu, de ce postulat. Ça façonne ma perspective de mon identité, de l'identité de Dieu. Jésus dit, moi je sais d'où je viens et où je vais. Grâce à ce que Dieu me dit, je sais qui je suis, je sais qui il est, je sais où je vais et je sais ce que je dois faire dans la vie. Et ne pas faire. Et je termine en nous citant quatre grandes implications qui doivent changer notre existence. Par rapport à ce postulat de base, la première vérité, la première implication est celle-ci. La vie gravite autour de Dieu et pas autour de nous. La pression du temporel fait que les gens se soucient de eux. Eux et eux, leurs intérêts, leur pouvoir, leur prestige, leur approbation. L'Écriture dit, parce que Dieu est là, parce que Dieu n'est pas silencieux, parce que Dieu m'a sauvé, parce que Dieu s'est révélé, notre vie gravite autour de Dieu et pas autour de moi. Tout a été créé par lui et pour lui. J'existe pour Dieu. Quelqu'un disait dernièrement, notre christianisme tourne trop autour de l'homme. Et c'est vrai. Copernic avait raison de dire, faux! Tout ne tourne pas autour de la Terre. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Tu n'es pas le centre de l'univers. Tu n'es pas le centre. Je ne suis pas le centre de l'Église. Je ne suis pas du tout le centre. Il est le centre. Ma vie gravite autour de Dieu. Je ne suis pas là pour convaincre Dieu de me servir. Je suis là pour servir Dieu. Nous avons la capacité de servir Dieu, d'honorer Dieu, dans nos familles, sur notre lieu de travail. Notre vie gravite autour de Dieu. Deuxième implication, puisque tu as été créé pour entretenir une relation avec l'auteur de tout don parfait, l'ambition la plus grande, la plus élevée de notre existence doit être de le connaître. Deuxième implication tellement forte et qui touche l'éternité, notre ambition première n'est pas d'accumuler des millions, n'est pas de remplacer le patron. L'ambition première, c'est de connaître Dieu, d'expérimenter Dieu, de croître dans notre connaissance de Dieu et par sa grâce et par sa force, devenir comme lui. Vous savez que ça, c'est le but de la vie chrétienne? Devenir comme Jésus. Et parfois, on a l'impression que l'Église est tellement en décalage. L'objectif de notre vie, c'est de connaître Dieu et pas bouquiner des choses sur Dieu. Mais d'expérimenter, de connaître. Paul pouvait dire, quand il dit, si, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'était pas qu'il se baladait avec une Torah, un rouleau. Il expérimentait, il goûtait. La vie tourne autour de Dieu. Il faut que nos couples tournent autour de Dieu. Il faut que ton ambition, que notre ambition en tant qu'Église, soit de connaître Dieu et de devenir comme son Fils. Là, Dieu s'engouffre quand on est comme ça. Troisième implication. Puisque Dieu s'est révélé à travers l'Écriture, la critique historique a détruit beaucoup de choses par rapport à l'Écriture. Nous croyons qu'elle est parole de Dieu. Paul disait, quel est l'avantage des Juifs? Dieu leur a confié ses oracles. Ouais, Dieu a parlé. Ouais, Dieu est là, Dieu parle. Puisque nous avons l'Écriture, parole de Dieu, je crois qu'on ferait bien de prendre du temps à la lire. Je crois qu'on ferait bien de prendre du temps, de la lire, de la méditer, de la mémoriser, de la mettre dans son cœur. David disait, je la serre dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et de vivre la Bible. Pas simplement lire la Bible, mais vivre la Bible. Combien de temps est-ce que je passe dans ce ressourcement de mes pensées par la parole de Dieu? Je disais à quelqu'un dernièrement qui, en proie à l'angoisse, au stress, lit l'Écriture simplement pour que le climat du ciel se pose en toi. La vie ne gravite pas autour de toi, la vie gravite autour de Dieu. Notre objectif premier, c'est de le connaître. Le connaître. Troisièmement, puisqu'il s'est révélé, je ferais bien de prendre cette parole vraiment au sérieux. Tous les jours, mes amis, tous les jours, j'en ai besoin. Je ne veux pas tomber dans le légalisme, okay, mais je parle parfois à des gens qui lisent si peu l'Écriture, alors qu'on a ce cadeau, Dieu, qui se révèle. Et l'Écriture me dit quoi ? Que ma vie c'est un bref séjour, très très bref, qui me prépare à la cité d'en haut, à la gloire du ciel. Et parce qu'on n'a pas suffisamment médité, aimé le ciel, ça nous semble bigot. Inintéressant. Alors que la Bible dit ça, c'est la gloire, c'est la vie parfaite. Et nous, on passe un tout petit peu de temps sur terre, mais un temps important où je peux connaître Dieu, servir Dieu et rentrer dans le royaume d'en haut. Et puis, dernière implication, je termine avec ça. Attendons-nous régulièrement. Être en bataille avec le temporel, être attiré par le temporel et nous éloigner de ce qui est éternel. Parce que la pression, ma vieille nature, la pression de la société est tellement forte que mon cœur va être déchiré entre l'éternel et le temporel. Parce que les vérités de l'Écriture de plus en plus vont à l'encontre de la culture ambiante. Et chaque fois que je m'éloigne du chemin de l'obéissance, du service, de la confiance, c'est que je me suis leurré, ce ne sont plus mes valeurs. Je suis sur la route de la désobéissance, de l'égoïsme. J'ai été séduit au point de penser que je sais mieux que Dieu ce qu'il faut pour ma vie. Mais la vie chrétienne, elle découle de la confiance. Dieu a dit vrai. Abraham a cru ce que Dieu a dit. Il s'est levé, il a suivi. Paul a vu Jésus, il a cru, il a suivi. Je termine avec cette illustration. Tu vas à l'hôtel quelques jours. Si notre vie, si on la compare à un moment à l'hôtel. Certains parmi nous ont la chance d'avoir une belle chambre, bien décorée, un chouette frigo, des fleurs, un petit coin salon. Et puis d'autres sont dans une chambre un peu miteuse. Sent pas bon. Le tapis est pas beau. Et la nourriture est vraiment médiocre. Ce que tu vas vivre là-bas, c'est juste le contenu de tes valises. T'es venu pour quelque chose et tu vas vivre ça. Juste ça. Notre vie sur terre est un peu comparable à cela. On est dans un hôtel quelques jours. Alors, peu importe si la nourriture n'est pas comme à la maison, peu importe si la chambre n'est pas top, je ne vais pas y passer l'éternité, c'est juste un petit moment de passage. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas améliorer les choses ici-bas, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais par rapport à l'éternité, la vie dans ma cité, je ne vais pas dépenser toute mon énergie dans cette chambre d'hôtel. Parce que je sais qu'après, ma vraie vie commence. Alors, que le Seigneur nous aide à développer ce potentiel de changement. Il y a des changements de valeur et on va continuer à laisser le royaume de Dieu s'installer en nous. Laisser le Christ régner en nous. On va prier ensemble. Certainement, Seigneur, que si tu circulais physiquement dans nos villes, tu dirais à tant et tant de personnes, à quoi sert-il de gagner le monde entier ? À quoi sert-il de courir après tant et tant de choses si vous perdez votre âme ? Merci parce que en Jésus, par l'œuvre de la croix, tu as racheté notre âme. Et non plus pour que nous courions après les choses d'en bas. Tu as dit que tu veillais. Tu nous invites maintenant à chercher d'abord le royaume, de chercher d'abord ce qui te préoccupe. L'amour de l'autre, le service de l'autre, l'annonce de la bonne nouvelle. Une vie qui serve les intérêts de notre royaume, qui réjouissent ton cœur. Des vies dans lesquelles tu agis tu participes. Tu dis, Seigneur, que le travail est grand, la moisson est grande. Et parfois l'Église est tellement si peu enclin à se lever et à rentrer dans cette moisson. Je te prie pour que dans cette période, où peut-être il y a des temps de repos, nous puissions méditer ces choses et faire graviter nos vies autour de toi. Chercher d'abord ta volonté, te chercher toi, te connaître, t'entendre pour marcher dans ta volonté. Fortifie chacun d'entre nous, Seigneur. Fortifie-nous. Dans le nom de Jésus. Amen.